Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Une manifestation et des morts. Hier au Soudan, la police soudanaise a tué au moins 4 manifestants qui protestaient contre le pouvoir militaire. Une nomination dans la continuité d'une rencontre qui s'est faite depuis fort longtemps entre Lyon et Alger. Des mots du recteur de la Grande Mosquée de Lyon après la nomination de Mgr Jean-Paul Vesco à la tête de l'archevêché d'Alger. Kamel Kaptan sera l'un de nos invités. Comment éviter une flambée des contaminations lors de la soirée du Nouvel An? Nous écouterons Samira Merail, médecin et ex-ministre tunisienne de la Santé. Elle reviendra aussi sur le pass vaccinal en vigueur en Tunisie. L'invité de Pluriel ce soir à 19h sera Victor Grèze, responsable du pôle vote de la primaire populaire. 300 000 personnes se sont inscrites pour participer à cette primaire qui doit départager les candidats de gauche à la présidentielle, extrait dans votre édition. La sélection tunisienne de handball a remporté le tournoi des 4 nations. La Tunisie s'est imposée face au Japon au cours de la 3e journée. La police soudanaise a tué au moins 4 manifestants anti-pouvoir militaire. Hier, des dizaines d'autres ont été blessés par des tirs des forces de police. C'est arrivé à Omdurman, dans la banlieue nord-ouest de Khartoum. Les autorités avaient coupé dans la matinée l'internet mobile et les appels téléphoniques avant de les rétablir dans la soirée une fois les manifestants dispersés. La réaction du recteur de la Grande Mosquée de Lyon après la nomination de Mgr Jean-Paul Vesco à la tête de l'archevêché d'Alger. Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran depuis 2012, Kamel Kaptan évoque un signe intéressant et une nomination dans la continuité d'une rencontre qui s'est faite depuis fort longtemps entre Lyon et Alger. Jean-Paul Vesco, né à Lyon, est entré dans l'ordre des Dominicains en 1995. Il succédera le 11 février prochain à Mgr Paul Desfarge. Entretien avec le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan.
Je l'accueille avec plaisir, je l'accueille avec beaucoup de plaisir, d'autant que je connais bien Jean-Paul Vesco pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, aussi bien ici à Lyon qu'à Oran, lorsque nous avons été en 2018 pour participer à cette grande manifestation avec l'ensemble des chrétiens d'Algérie et de France, où nous avons rendu hommage à tous ces morts, à tous ces chrétiens qui sont morts en Algérie. Je pense que sa nomination, c'est un signe assez intéressant dans le sens où il est la continuité d'une rencontre qui s'est faite depuis fort longtemps entre Lyon et Alger, puisque déjà des évêques originaires de Lyon ont été à la tête de l'évêché d'Alger. Je pense que ça, c'est aussi, c'est une façon, Lyon a toujours été le centre, je dirais, des relations, et on le sent aujourd'hui depuis fort longtemps, les relations que nous avons avec l'ensemble, si bien des évêques que des prêtres lyonnais, nous encourage à croire que le fait d'avoir nommé Mgr Jean-Paul Vesco à la tête de l'épiscopat d'Alger, c'est un signe qui permet de nous rendre compte combien ces relations sont importantes. Moi, je souhaite à Mgr Vesco le plus grand succès dans sa mission et aussi je souhaite effectivement aux Algériens la rencontre avec un homme de très grande érudition qui a permis effectivement depuis fort longtemps, notamment à la tête de l'évêché d'Oran, de rasséréner les choses et de faire en sorte que la communauté chrétienne d'Oran puisse vivre après avoir vécu des moments très difficiles après l'assassinat dont a été victime le précédent évêque. Aujourd'hui, Mgr Vesco, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est ce qu'a voulu nous dire le pape lorsqu'il l'a nommé.
Ces relations spécifiques entre Lyon et l'Algérie, ces relations que vous évoquiez, quelle est leur origine?
Je pense que Lyon, ses origines avec le monde musulman remontent à très, très longtemps. Comment dirais-je, la route de la soie passe par Lyon et ensuite elle continue vers le Moyen-Orient. Donc ces relations, elles sont très importantes depuis fort longtemps. C'est ce qui nous encourage à penser que les relations entre les évêques lyonnais remontent à très longtemps. Je pensais notamment à ces relations qui ont existé depuis le Moyen-Âge et qui ont continué depuis longtemps avec notamment la présence de Mgr Tessier qui était originaire de Lyon. Le précédent archevêque aussi était originaire de Lyon. Donc il y a véritablement une continuité dans les relations que Lyon exerce avec l'Algérie.
Vous l'avez dit, vous connaissez Mgr Jean-Paul Vesco, dont la nomination prendra effet le 11 février prochain à la tête de l'archevêché d'Alger. Vous diriez que c'est également un artisan du dialogue interreligieux?
Le dialogue avec l'islam, Mgr Vesco, l'a commencé depuis fort longtemps. Je pense que le fait de sa volonté de venir en Algérie a été aussi à montrer combien il était attaché à ce pays, combien il était attaché à faire en sorte que la présence chrétienne en Algérie continue au travers de gens qui savent qui savent parler avec les musulmans, qui savent parler avec les populations. Aujourd'hui, je le suis au travers des réseaux sociaux de ce qu'il fait à Oran. C'est magnifique, ces relations qu'il entretient avec la population et la population qui le lui rend bien. Je suis content et je vais plus m'en apercevoir et m'en rendre compte lorsque nous sommes allés à Oran en 2018 pour rendre hommage à tous ces chrétiens qui ont été assassinés pendant les années noires en Algérie. Nous avons pu voir le travail qu'il a fait et les liens qu'il a tissés avec l'ensemble des Algériens.
Et cela a un impact, bien entendu, sur l'ensemble des composantes des deux sociétés, les sociétés algériennes et françaises.
Je pense que les deux composantes se connaissent depuis fort longtemps et la présence effectivement d'évêques de cette qualité nous montre que les Algériens, parce que sûrement lorsque le pape a nommé Mgr Vesco, il l'a nommé avec l'assentiment des autorités algériennes. Et si les autorités algériennes ont accepté, ont dit oui à sa nomination, c'est parce qu'elles estimaient qu'elles avaient un interlocuteur de valeur.
Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan. Les législatives le 15 mai prochain au Liban. L'ex-premier ministre libanais Saad Hariri souhaite que les échéances électorales se tiennent dans les délais prévus par la loi. Une élection présidentielle doit aussi avoir lieu en octobre prochain. La crise sanitaire internationale, les conseils de l'ex-ministre tunisienne de la Santé, Samir Amer, à l'approche de la soirée du Nouvel An ce soir, le médecin suggère aux familles qui reçoivent des personnes d'exiger un test rapide de leurs invités et elle évoque une période préoccupante, la docteure Samira Merail.
Cette période reste préoccupante au vu de la situation mondiale hein, et surtout européenne. On s'attend vraiment à une quatrième vague. Hein. Je pense qu'on aura une quatrième vague donc d'ici février, mais avec la période des fêtes, beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. C'est pour ça, mais j'appelle donc à vraiment pour ceux qui font la fête, faut pas se baser uniquement sur le pass vaccinal. Il faut obligatoirement montrer donc au moins un test antigénique donc rapide qui est négatif. Mais je ne pense pas qu'on aura la même vague de mois de juillet parce qu'on a une bonne proportion de gens qui sont vaccinés. Aujourd'hui, on est peut-être plus qu'à 70% des gens de plus de 18 ans. On est à 60% des gens qui sont vaccinés des Tunisiens, donc 5 800 000 hein, qui sont vaccinés, et qui sont bien vaccinés, qui ont fini leur vaccination. Et surtout, la vaccination, elle date donc d'août. Ce n'est pas comme l'Europe, donc d'août. On sait que la protection diminue avec le temps. Et donc, je pense qu'on n'aura pas une forte vague. Et la situation sanitaire avec la vaccination de la troisième dose hein, qu'on a entamée il n'y a pas longtemps, je pense que la situation elle est très très rassurante.
Et quel conseil donnez-vous aux personnes qui s'apprêtent à fêter le nouvel an en famille ou entre amis?
C'est ça la question aujourd'hui parce que moi je pense qu'en famille et en amis, il faut vraiment la distanciation d'abord, c'est surtout ça la distanciation, et puis essayez par, dans un milieu bien sûr confiné, s'assurer par des tests rapides. C'est simple, un test antigénique, ça coûte dans les 25 dinars tunisiens. On peut le faire surtout quand on est nombreux au-delà de 10 personnes. Moi, j'appelle donc si vraiment il y aurait plus que 10 personnes, il vaut mieux faire donc les tests antigéniques et exiger un test antigénique même pour tous les invités.
La personne qui reçoit exige que ses invités arrivent avec un test négatif.
Un test antigénique, donc récent, qui est négatif. Moi, j'ai fait un appel pour ça. Et puis, voilà, le pass sanitaire, donc il rentre, bon, il est rentré en vigueur le 22. On a peut-être, il y aura donc un petit problème avec un peu des enseignants qui ne sont pas encore vaccinés, et c'est la période donc des vacances. Et on appelle donc à tous les enseignants, l'appel a été porté par, que ce soit par le ministre de l'Éducation, par le ministère de la Santé, pour que tous les enseignants soient vaccinés. Voilà.
Oui, parce qu'il s'agit d'un pass vaccinal particulièrement restrictif, qui est notamment obligatoire pour l'ensemble des salariés. Est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible de respecter une telle mesure?
Pour le moment, donc la seule contrainte peut-être, ça va être dans les écoles, comme je l'ai dit, mais sinon donc que ce soit dans les lieux publics ou dans les administrations, c'est en train d'être donc respecté. C'est en train d'être respecté. Moi, je vois ici donc à l'hôpital, même à l'hôpital, il y a un agent qui donc il ne laisse passer que les gens qui sont vaccinés. On a donné tous donc le nom. Et c'est en train d'être appliqué. Je sais que dans les banques, impossible de laisser entrer quelqu'un qui n'a pas de passe vaccinal.
Et c'est une forme de confinement pour les personnes non vaccinées.
C'est une forme plutôt donc de pour pousser les gens. Au contraire, c'est pour pousser les gens à se faire vacciner. Et on voit que il y a pas mal qui étaient très 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 réticents. Et qui sont venus donc samedi dernier lors de la campagne, qui sont venus donc se faire vacciner. Et il y aura d'autres. Et surtout avec cette flexibilité, venez se faire vacciner avec n'importe quel vaccin. Et vous pouvez faire le choix donc de votre vaccin. Et ça c'est quelque chose donc qui j'apprécie.
Vous nous dites donc que c'est incitatif et que cela fonctionne.
Incitatif, ça fonctionne. On aura peut-être quelques-uns, on aura surtout avec les quelques syndicats, probablement, je ne sais pas, mais pour le moment, tout se passe très très bien, mais quand même 13 000 enseignants qui ne sont pas vaccinés jusqu'à aujourd'hui, ça nous pose un problème parce que les enseignants, c'est-à-dire donc ce sont les élèves, c'est l'arrêt des cours, et là ça pourrait poser, donc là on est encore en vacances, on verra. Donc après les vacances.
Samira Merail, médecin, ex-ministre tunisienne, notamment de la santé. Au Maroc, le rappel vaccinal peut être administré 4 mois après la dernière injection de vaccin à double dose, Pfizer, Sinopharm ou AstraZeneca, et 4 semaines après l'injection unique de Janssen. Selon le ministère de la Santé, les Marocains concernés recevront un SMS au 1717, leur rappelant leur situation vaccinale. Les autorités précisent que la vaccination se fait dans tous les centres sans condition d'adresse de résidence. Détecté pour la première fois en France métropolitaine au début du mois de décembre, le variant Omicron est désormais majoritaire dans toute la France. 62,4% des tests positifs étaient liés au début de la semaine à cette nouvelle souche apparue en Afrique du Sud, contre seulement 15% le 13 décembre dernier. L'Afrique du Sud qui a annoncé avoir passé le pic de la vague de contamination sans constater une hausse importante du nombre de décès. L'invité de Pluriel ce soir à 19h sera Victor Grèze, responsable du pôle vote de la primaire populaire. 300 000 personnes se sont inscrites pour participer à cette primaire qui doit départager les candidats de gauche à la présidentielle, une primaire qui ira à son terme, même si la plupart des candidats refusent pour l'instant d'y participer. Victor Grèze.
Notre processus est un petit peu particulier. Il n'est pas tout à fait comme une primaire qui serait organisée par un parti ou par plusieurs partis. Puisqu'on sait très bien que quand la société civile s'organise, même si elle est forte de 300 000 signatures, de mouvements de pression, puisqu'on a été faire des sit-ins devant les différents rassemblements et meetings des différents candidats, on leur a mis la pression, mais on sait très bien que s'ils ont décidé d'être tout seuls dans leur couloir, c'est toujours difficile de passer d'une course où il y a tout le monde au départ et un gagnant ou une gagnante à une course de relais. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire que vous arriviez à vous entendre pour participer ou pas, de toute façon, on fera un vote. Donc on a identifié quels étaient les candidats qui étaient compatibles avec ce socle, puisqu'ils ont participé à son élaboration. Et maintenant on dit, quoi qu'il arrive, du 27 au 30 janvier, on va faire un vote pour que toutes les Françaises et les Français qui adhèrent à l'esprit de ce socle commun et qui ont envie d'un rassemblement pour gagner à minima le passer au deuxième tour et gagner à la présidentielle, eh bien vont pouvoir venir voter sur le site de la primaire populaire pour départager ces candidats et ces personnalités qui sont candidates à la présidentielle et choisir comme un grand sondage finalement, mais un sondage auprès de personnes qui veulent le rassemblement, quelle sera la meilleure personnalité, la meilleure personne pour le porter. Donc là, on demandera effectivement à cette personne, si elle se reconnaît bien effectivement dans le socle, eh bien, de le dire et on lui apportera notre soutien.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que par exemple Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon, leur nom sera présent dans la primaire, même s'ils disent qu'ils ne veulent pas y participer?
Tout à fait, puisque il faut voir la primaire populaire comme une grande investiture. Une investiture populaire dans laquelle les citoyens qui veulent le rassemblement, eh bien, investissent la personne qu'ils pensent la mieux placée pour gagner. Mais nous, on le dit aux candidats, on le dit à Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a des échanges réguliers, bien sûr, avec les équipes, ils suivent ce qui se passe. On le dit à Jean-Luc Mélenchon, on le dit à Yannick Jadot. Si vous pensez que vous êtes aujourd'hui les mieux placés pour porter ses idées, eh bien, participez à la primaire, reconnaissez-en le résultat, et si vous êtes le mieux ou la mieux placée pour le faire, eh bien, vous gagnerez, il n'y a aucun problème. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire que finalement, bon, aujourd'hui, on dit, voilà, dans les sondages, j'ai un point de plus, un point de moins, j'ai commencé mon programme avant, après, très bien. Mais aujourd'hui, plutôt que de faire des grandes annonces qui disent c'est moi qui suis le mieux placé ou la mieux placée, eh bien, venez participer au processus. Et si vous êtes le mieux ou la mieux placée, eh bien évidemment, tout le mouvement suivra et renforcera vos chances de gagner.
Le risque pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, c'est de perdre cette primaire et de se voir contraint de se retirer.
Ben oui, bien sûr. Mais en même temps, le risque pour Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, c'est de perdre la présidentielle et de ne pas passer au deuxième tour. Donc le risque, il est là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'est pas là pour diviser. Ils sont déjà divisés. Nous, on est là pour essayer de redonner un espoir quant à un rassemblement possible. Et on est confiant sur le fait que ça peut advenir parce que certains candidats et certaines candidates ont déjà exprimé le fait que finalement, c'est peut-être la seule solution. On pense bien sûr à Anne Hidalgo qui, jusqu'à il y a quelques jours, disait encore qu'elle n'y songeait pas et puis finalement a compris que c'était une initiative qui pouvait permettre d'aller plus loin en étant regroupé. Christiane Taubira aussi a fait des annonces et s'est dite favorable à la primaire populaire. Et bien sûr, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et les autres, la porte leur est toujours ouverte et le fait qu'ils ne décollent pas dans les sondages devrait les pousser à y réfléchir. J'ajoute un point, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est que la primaire populaire, en tant que grande investiture, n'est pas un vote classique, c'est-à-dire que ce n'est pas un vote où on en choisit un ou une et les autres sont de fait éliminés. C'est un vote qui est sous un mode de scrutin qui s'appelle le vote au jugement majoritaire. C'est-à-dire qu'on va donner une mention à tous les candidats et toutes les candidates, une mention qui va de excellent jusqu'à à rejeter, excellent, bien, passable, insuffisant, à rejeter, ce qui permet à la fin, non pas d'avoir un gagnant et que des perdants, mais d'avoir une vision très claire de quelles sont les personnalités qui sont, je dirais pas préférées, mais qui ont le plus de sentiments positifs ou le plus d'approbation. Et donc l'objectif de ça, c'est de leur dire, bien regardez, vous allez pouvoir vous classer, vous allez pouvoir qui sera le chef ou la chef d'équipe pour nous faire gagner en 2022, mais c'est bien une équipe et vous pourrez voir les dynamiques et vous pourrez vous rendre compte que celui qui gagne est peut-être vraiment à quelques pas du numéro 2, de la numéro 2, de la numéro 3, etc.
Victor Grèze, responsable du pôle vote de la primaire populaire. Il est l'invité de Pluriel ce soir à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. Enfin, la sélection tunisienne de handball a remporté le tournoi des quatre nations en Pologne. La Tunisie s'est imposée face au Japon au cours de la troisième journée. Victoire 36-31. Ce tournoi amical servira de préparation aux Aigles de Carthage pour la Coupe d'Afrique des Nations. Elle se tiendra officiellement au Maroc du 26 juin au 6 juillet. Elle était initialement prévue du 13 au 23 janvier prochain. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient à 13h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très beau début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est midi 18.